participatif qui déborde un peu, c'est la dernière partie de la Grande Table. Caroline Brouille.
Depuis plusieurs mois, c'est surtout autour de la dialectique entre liberté et sécurité, à laquelle nous avons consacré plusieurs grandes tables, que tournent les débats, même si les Français se sont dit prêts à rogner leur liberté pour plus de sécurité. La campagne présidentielle ayant commencé, la question du libéralisme reprend ses couleurs économiques. Parée de toutes les vertus à droite, les prétendants à l'investiture promettent tous de libérer l'économie et assument un libéralisme décomplexé, comme le titrait le Figaro il y a quelques jours, tandis qu'elle a l'air de creuser la ligne de fracture au sein du PS entre un ministre de l'économie qui affirme que le libéralisme est une valeur de gauche et une frange du parti qui oppose gauche sociale et gauche libérale. Liberté d'expression, liberté de circulation, libertés économiques, la liberté en France ne fait plus consensus. Comment comprendre qu'elle soit la première valeur citée par notre devise républicaine et qu'elle fasse autant discuter? Peut-être faut-il remonter aux sources du mot même de liberté pour mieux comprendre ces débats. C'est en tout cas ce que nous allons essayer de faire en compagnie de notre invité Mathieu Laine. Bonjour.
Bonjour.
Entrepreneur, éditorialiste au Point, vous enseignez la philosophie politique et l'économie à Sciences Po et vous venez de faire paraître un dictionnaire amoureux de la liberté aux éditions Plomb, un dictionnaire qui va de l'entrée amour à l'entrée Stephen Zweig. Et avec vous, pour discuter aujourd'hui, nous avons proposé à Lucien Jaume de nous rejoindre. Bonjour.
Bonjour.
Lucien Jaume est directeur de recherche émérite au CNRS et au Centre d'études de la vie politique française, le CEVIPOF. Il est l'auteur notamment des Origines philosophiques du libéralisme, paru en 2000 chez Fayard. Mathieu Laine, comment expliquez-vous ces débats aujourd'hui? Est-ce que ça veut dire qu'il y a deux conceptions différentes de la liberté qui s'expriment, une conception de la liberté de gauche et puis une liberté de droite, ou bien on pourrait dire qu'il y a autant de conceptions de la liberté qu'il y a d'individus sur Terre?
Alors pour l'auteur d'un dictionnaire qui est en fait un anti-dictionnaire, c'est-à-dire puisque c'est un dictionnaire absolument subjectif,
personnel, exactement,
extrêmement personnel, j'aurais plutôt tendance à utiliser la deuxième version et votre deuxième proposition qui est en fait la liberté. Effectivement, souvent, on en a une définition très personnelle et c'est heureux. Et chacun, au regard de ses expériences et de ses envies, peut avoir une définition très personnelle. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si on veut un peu regarder ce qui se passe, il y a un vrai conflit profond dans le monde politique. Ça c'est l'écume, mais sans doute dans la société. Entre une partie de la population qui se réfugierait bien dans une liberté de confort, au sens ma liberté serait surtout de ne rien changer, et une espèce de conservatisme à vouloir préserver les acquis.
À droite, et puis, donc.
Je vais essayer de qualifier ça à droite et à gauche, parce que je pense que ça, on trouve ces deux tendances à droite comme à gauche. Et puis, des gens, disons, plus réformateurs, comme on dit à droite, ou plus réformistes, comme on dit à gauche, qui auraient peut-être sans doute un peu plus l'amour de la liberté et qui, pour faire le lien avec ce qui a été dit auparavant avec l'intelligence collective, pourrait partir du principe que peut-être qu'effectivement, le fait qu'il y ait une personne ou quelques personnes tout en haut de l'État qui se disent capables, par la magie de l'élection, de savoir mieux que nous ce qui est bon pour nous, quitte à rogner nos libertés, ben c'est pas forcément la meilleure solution et qu'il faut peut-être redonner de la liberté à chacun, pas seulement en économie, mais aussi sur tout sujet, comme disait Benjamin Constant, il faut aller chercher, moi je suis pour la liberté en tout sujet, c'est en train de bouger sacrément. Faut-il dire que c'est à droite ou à gauche? C'est vrai qu'on peut à droite voir, et j'en suis plutôt heureux, un certain nombre d'anciens dirigeants qui n'ont pas toujours été tendres avec la liberté, notamment en économie, s'y retrouver. Donc pourquoi pas, j'en suis assez heureux. Notamment, je trouve que François Fillon a bien travaillé et part plutôt en premier sur ce sujet. On verra s'il est suivi par les autres. Et à gauche, ben, il y a le phénomène Macron. Le phénomène Macron est particulièrement intéressant. Aujourd'hui, la loi El Khomri, c'est en réalité une loi Macron. Les propositions de Madame El Khomri figuraient dans l'interview faite par Étienne Jernel dans Le Point en 2014. Cette fameuse interview qui est sortie au moment même où il a été nommé, qui a fait polémique au moment même où il est arrivé au gouvernement, ben, toutes les propositions étaient déjà sur la table. Et de même que dans des lettres qu'il a écrites, je crois, au moment de Noël, il faisait toutes ses propositions également. Et pour des raisons purement politiciennes, ce n'est pas lui qui les porte. Mais qu'est-ce qu'on voit derrière la politique politicienne? On voit un Manuel Valls qui a fait sa notoriété sur une forme de liberté, sur une forme de rupture, sur une approche assez décomplexée de l'économie de marché, qui avait un Emmanuel Macron qui le distançait à chaque fois par petite phrase sur sa dimension réformiste. Et plus Emmanuel Macron était disruptif, comme on dit aujourd'hui, sur la partie liberté, plus il montait en popularité. Et plus Manuel Valls essayait de lui casser les jambes dans cet élan de réforme, plus il tombait. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, il y a un vrai désir, assez largement partagé dans ce pays, de liberté, c'est vrai, et d'une certaine forme de radicalité. Moi, je ne fais pas le constat que ce pays a besoin d'extrémisme. Il y a une partie, sans doute, mais qui en réalité est minoritaire, et qui cherche l'extrémisme réel.
Radicalité de quoi ?
Mais de radicalité au sens où nous avons besoin qu'enfin, un gouvernement, qu'il vienne de la gauche comme de la droite, vous voyez, je suis très ouvert, puisse enfin faire les réformes fondamentales qui redonnent le pouvoir à chacun et qui donnent à la liberté sa pleine place. En gros, un vrai mouvement libéral, allons jusqu'au bout de ce mot, et ça peut venir de la gauche, parce qu'il y a des racines historiques, et on y reviendra sans doute, mais enfin Benjamin Constant comme Alexis de Tocqueville siégeait à gauche. Hein.
Donc défendre la liberté aujourd'hui, c'est être révolutionnaire, Mathieu Laine ?
Bah, si être révolutionnaire, c'est remettre en cause les acquis d'un système qui est d'une espèce d'État, qui n'est même plus un État providence, qui est devenu une espèce d'État précaution, anti-risque, anti-mouvement, oui, vive la révolution, vive le grand vent de liberté.
Lucien Jaume.
Je suis assez d'accord à ce qui vient d'être dit. Je voudrais rappeler d'un point de vue de l'histoire des idées politiques que le propre de la France en matière de libéralisme a été de développer la liberté par l'État. Non pas la liberté contre l'État, la façon anglo-saxonne et américaine, mais la liberté par l'État, ça voulait dire que l'État s'auto-limitait devant les libertés publiques et devant les droits de l'homme et du citoyen, à tel point que nous avons refusé le contrôle de constitutionnalité pendant 2 siècles, justement à cause de cela, parce que c'était à l'État d'être sage. Et dans une certaine mesure, cela a donné satisfaction. Ça a donné le libéral étatisme jusqu'à, depuis Guizot, qui est vraiment à l'origine de cette conception, l'orléanisme, jusqu'à Édouard Balladur et Valéry Giscard d'Estaing. Et peut-être aujourd'hui Bruno Le Maire, avec qui je conversais il y a une quinzaine de jours sur cette antenne, n'est-ce pas ?
Dans l'atelier du pouvoir.
Dont j'ai dit qu'il était sans doute un peu réticent sur un libéralisme sans limite, bien dans une tradition française où l'on se rend compte que maintenant il faut lâcher un certain nombre de brides. Par exemple, il veut privatiser le Pôle emploi, hein, par exemple. Donc, lâcher sur un certain nombre de points, mais il tenait beaucoup à réaffirmer la présence de l'État. Ça, c'est très caractéristique des Français. Je pense que Mathieu Laine va plus loin. Quand il parle d'un ordre spontané dans son dictionnaire, quand il parle aussi de nature humaine, ce sont des choix très lourds. Parce que s'il tire la conséquence de l'ordre spontané, en effet, l'État est quasiment un parasite.
C'est quoi l'ordre spontané ?
Ça vient d'un théoricien autrichien. C'est l'idée que...
Ça vient de bien avant.
Alors, il dit que ça vient de la scolastique. Ça,
scolastique espagnole, bon, 16e siècle.
Ça, je ne connais pas bien, il faudra qu'il me montre.
C'est intéressant que ça vienne de la scolastique.
Ah bah oui,
vous pouvez me dire comment, de quelle façon ?
Oui, ça vient de la scolastique espagnole qui, en fait, sont partis d'un constat de l'époque. C'était de dire, à l'époque, on considérait qu'il y avait deux types d'ordre. L'ordre naturel et l'ordre artificiel. L'ordre naturel, c'est le respect de l'état de nature et de toutes ses lois. Et pour dire ça schématiquement, ça a donné le conservatisme et la droite. On respecte la nature. Et puis, de l'autre côté, vous aviez l'ordre artificiel. Vous aviez un grand architecte social, ou un dictateur, ou un grand élu par la magie d'élection, comme je disais tout à l'heure, qui vient vous dire, voilà comment la société doit être. Et donc, je vais vous emmener là. Voilà mon schéma, voilà mon objectif. Ça, c'est l'ordre artificiel. Et on était toujours à balancer entre les deux. Et ça a donné la gauche. Aujourd'hui, on peut considérer que la droite et la gauche se retrouvent plutôt sous cet angle du grand architecte social, en tout cas tel que vous venez de le définir. Et puis, les scolastiques espagnols se sont dit, mais n'y a-t-il pas un autre ordre ? Et ce mot est fondamental. Qui viendrait de quoi ? Qui viendrait non pas d'un seul cerveau humain ou de quelques cerveaux qui s'imposeraient à tous, mais de l'ensemble de cerveaux d'une collectivité. C'est en lien avec l'intelligence collective qu'on évoquait tout à l'heure. Et bien finalement, il y a un ordre qui se crée quand on donne la liberté associée à la responsabilité, parce que sinon c'est l'anarchie, ça ne veut rien dire. Quand on donne la liberté à chacun d'agir, il n'y a pas de dessein commun à créer un ordre, mais il y a effectivement un ordre qui se crée.
Et cet ordre, la main invisible, en fait.
Est un ordre, vous pouvez le dire en économie comme étant la main invisible, mais ça va bien au-delà parce que c'est même un ordre social dans le comportement humain. En général, à mes étudiants, je leur dis, vous savez, je me souviens des premières heures de Facebook. Au tout début de Facebook.
Il
n'y
a pas si longtemps. Hein.
Oui, j'enseignais
déjà. Mais il y a déjà un siècle.
Premières heures de Facebook, la première année, vous avez des étudiants et des étudiantes qui m'appelaient en amis pour devenir amis sur Facebook. Et je voyais leur vie privée. Des photos de boîtes de nuit, etc. Voilà, bon. Et puis, 2 ans après, plus personne. Il n'y a pas eu d'intervention de l'État. Hein. Il n'y a pas eu d'intervention de qui que ce soit, d'ailleurs, de quel ordre que ce soit. Il y a un ordre spontané qui s'est fait. Et qui se sont dit, oula, ça c'est dangereux pour moi, pour ma réputation, pour mon comportement. L'ordre spontané, il est permanent dans nos vies.
Lucien Jaume.
Oui, je trouve que cette conception n'est pas tellement chez les scolastiques, mais surtout chez les Écossais comme David Hume, parce que David Hume a vraiment fait...
Qui les scolastiques, mais on ne va pas faire un débat académique, bon, je vous le trouverai.
On ne va pas faire un débat académique, oui. Nous en reparlerons.
Vous le lui montrerez.
Off record. Ce qui est intéressant au XVIIIe siècle, en effet, mais là, je confirme, c'est cette idée que sans arrêt, nous nous représentons ce que les autres se représentent de nous. C'est-à-dire, nous sommes constamment sous l'œil de la société, sous l'œil de nos collaborateurs et de nos concurrents. Alors, il est exact que, de ce fait, se créent des normes sociales. Des normes sociales que personne ne produit de façon délibérée. Tout voilà. À fait. Alors, je dis néanmoins que c'est un choix très lourd. Parce que dans la situation actuelle, la situation mondiale, la montée du terrorisme, le fait que le terrorisme arrive maintenant tout près de nous, en Méditerranée, n'est-ce pas? Vous voyez ce qui se passe avec la Libye, ce qui va peut-être se passer en Tunisie et en Algérie. Parce que là-dessus, on a quand même des informations extrêmement alarmantes. Dans la situation française, les tensions que nous éprouvons dans notre société, je trouve que c'est assez courageux, et je suis un peu sceptique aussi, c'est assez courageux de nous parler de cet ordre spontané. Parce que si vraiment on passe à cet ordre spontané, alors c'est vraiment une révolution. Une révolution de tous, une révolution de l'intelligence collective. Donc, pour le moment, je trouve que c'est utopique et intéressant. Utopique n'est pas critique. Enfin, c'est une utopie, c'est-à-dire une vision, hein, et c'est intéressant. Mais nous en sommes très loin, me semble-t-il.
Oui, oui.
Mathieu Laine.
Oui, alors ne caricaturons ni ce livre, ni s'il vous plaît la pensée de son auteur. Et il y a effectivement, je me suis baladé dans les concepts de liberté en allant piocher dans la littérature, la musique et plein d'autres thèmes, et y compris sur ces lectures que je peux avoir. Dans l'entrée utopie, vous ne pouvez pas tout lire, mais je révèle précisément le fait que l'ordre spontané est une utopie et que c'est intellectuellement intéressant. Mais je n'en fais pas un projet aujourd'hui politique. Dans mon engagement auprès d'un certain nombre de dirigeants politiques à qui j'ai la chance de parler de temps en temps, je ne vais absolument pas leur vendre l'ordre spontané. Je ne vais même pas leur vendre Margaret Thatcher. Je vais essayer de voir comment, en fonction de ce qu'est la France, chacun pourrait aller vers un peu plus de liberté. Donc soyons très calmes, je ne suis pas
un anarchiste. Ça serait bizarre de faire un plan de 5 ans pour organiser la spontanéité aussi.
Au contraire, je suis juste convaincu que plus on ira vers la liberté, plus l'ordre se créera. Donc je me sens plutôt conforté par cette utopie que je vois au loin.
Il suffit de ramener la liberté ou peut-être d'empêcher ce qui
empêche la liberté.
En tout cas, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir le vertige de la liberté, pour le dire mieux. La liberté ne ferait pas tomber, plus de liberté dans une société ne nous ferait pas tomber ou basculer dans un désordre. Au contraire, je pense que ça nous ferait tomber dans un ordre.
Mais on en manque? Vous trouvez qu'on en manque?
Ah bah oui, clairement. Mais je veux juste rebondir, je vous réponds tout de suite après, mais sur la dimension risque et terrorisme, etc. Moi, je fais partie de ces personnes qui ont écrit des papiers en s'alarmant et en contestant le fait que précisément parce que pour des raisons économiques et des pressions de l'Europe et peut-être aussi une volonté de réduire la dette française qui nous plombe, eh bien un certain nombre de gouvernements ont eu le manque de courage, si je puis dire, d'aller réduire non pas les 600 milliards de dépenses sociales par an, parfois sans doute mal exploitées, mais plutôt d'aller réduire les budgets de la police, de la défense, de la sécurité, du renseignement. Précisément parce que je ne suis pas anarchiste et parce que je suis absolument favorable à ce qu'il y ait un État régalien qui assure notre sécurité, qui est également quand même une condition fondamentale de la liberté. Si vous lisez ce livre, vous voyez bien que mes grands héros, ce sont ceux qui luttent contre Daesh. Mmh. Et évidemment que si j'ai mes grands
héros... De Houellebecq à Sansal, de Ai Weiwei à Patti Smith.
Oui, mais ce qui est admirable...
Alors, les deux derniers, Patti Smith lutte moins contre Daesh, mais c'est vrai qu'Ai Weiwei l'a fait, là, il n'y a pas très longtemps, au salon.
Moi, je
ne
fais
que
vous citer. Hein.
Mais,
dans mes héros de liberté contemporaine.
Oui, pardon,
voilà.
Non, mais bien sûr, bien sûr. Et évidemment, Kamel Daoud, hein, dont je suis un fervent défenseur, dans
autour
sa lignée
camusienne. Autour de qui il y a des discussions aujourd'hui.
On pourra en parler avec plaisir. Voilà, les grands héros de la liberté aujourd'hui, où c'est ce grand archéologue de Palmyre, voilà.
Khaled al-Assad.
Voilà, Khaled al-Assad, qui fait partie de mes héros également. L'amour de la liberté vous porte aujourd'hui, comme hier sans doute, à avoir lutté contre le fascisme, lutté contre le communisme, aujourd'hui à lutter contre le totalitarisme islamiste, en le qualifiant bien, et en n'ayant pas peur de dénoncer tous ces méfaits.
Je vous renvoie à mon article dans la Revue des Deux Mondes ce mois-ci sur les deux terrorismes, c'est-à-dire celui de 1793 et celui de 2015. Et j'essaie de montrer, de faire un portrait de l'esprit terroriste, en me servant notamment de l'un de nos amours communs, Mathieu Laine, à savoir Germaine de Staël.
Et oui.
Car Germaine de Staël a fait un portrait du terroriste, qui est tout à fait intéressant. Mais je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Mathieu Laine, puisque pour ma part, j'ai toujours soutenu que la France n'avait pas fait sa révolution individualiste. Mon livre d'histoire du libéralisme français s'appelle « L'individu effacé ». L'individu effacé ou le paradoxe du libéralisme français. D'ailleurs, j'essaie de montrer que jusqu'à présent, et je crois que avec quelqu'un comme Emmanuel Macron, les choses changent justement, donc je suis d'accord. Jusqu'à présent, nous n'avons pas fait confiance à l'individu. Nous avons continué à reconstituer des corporations, à reconstituer des groupements qui bloquent le progrès, qui bloquent la discussion, qui bloquent l'échange. Sur ce point, je crois que nous avons un grand accord.
Mathieu Laine.
Emmanuel Macron, pour reprendre un de ses... Alors moi, je suis en fervent soutien, je souhaite qu'il se présente en 2017. Mais
Vous êtes autour de lui, il paraît qu'il y a des groupes
énormément.
De gens qui se préparent cette échéance-là.
On se parle énormément, c'est un ami depuis un certain nombre d'années.
Et en quoi n'est-il pas un libéral de droite, alors?
Parce que ce n'est pas un... il me semble, hein, mais il est beaucoup plus ouvert sur les sujets de société. Il avait d'ailleurs un regard sur la déchéance de nationalité qui était bien plus favorable à la liberté. Il n'aimait pas qu'on associe le terrorisme à l'idée même d'une nationalité. Mais là, vous voyez bien que ça va même contre ses définitions de la droite, puisque c'est Manuel Valls qui le portait. Hein, je pense qu'il est moins conservateur et qu'il est plus ouvert à la liberté sous tous ses angles. Mais en économie, quand il vient dire, vous savez, moi, de mon bureau de ministre de l'économie, qui serais-je à interdire à un chauffeur Uber ou autre compagnie à aller faire ce voilà. travail plutôt que d'attendre. C'est-à-dire, c'est pas à moi de décider. Si la réforme doit se faire, c'est presque plus eux qui vont la faire que moi. Donc moi, je vous fais confiance et c'est à vous de faire ce que bon vous semble. Mais arrêtons de penser uniquement en CDI, fonction publique ou chômage. S'il y a d'autres voies pour se développer, pour se déployer, pour avoir un pied à l'étrier et se lancer dans le marché du travail, je serais fou de ne pas laisser faire ça. Mon seul sujet, c'est qu'il est ministre de l'économie et que quand on est ministre de l'économie en France avec ces idées-là, on a des difficultés fondamentales à faire passer ce genre de réforme. Et donc, en fait, il faut devenir président de la République.
France Culture, la Grande Table, Caroline Brouet.
Pourquoi la liberté ne fait-elle plus consensus aujourd'hui? Nous posons la question à Mathieu Laine, qui est l'auteur d'un dictionnaire amoureux de la liberté. Autour de la table, le professeur Lucien Jaume, qui connaît très bien ces questions de liberté et de libéralisme pour avoir longtemps travaillé dessus et écrit dessus. Je voudrais qu'on quitte le terrain politico-économique, Mathieu Laine, parce que vous le faites beaucoup dans ce dictionnaire amoureux de la liberté, et au-delà de cette défense illustration du gouvernement d'Emmanuel Macron, tentant de réconcilier ce qui fait la gauche et la droite en matière de libéralisme, vous avez tenu à cœur de mettre un certain nombre d'entrées artistico-culturelles.
Ouais.
Ça va de Ben-Hur à Louise Bourgeois, de la gastronomie au droit de vote obligatoire. Donc, pourquoi avoir tenu à ce qu'il y ait des entrées artistiques à côté de ces questions politiques et économiques?
Parce que la culture, c'est le plus bel élan de liberté. D'ailleurs, tous les grands mouvements totalitaires veulent tuer les intellectuels et les gens de culture. Toutes les époques malheureuses montrent cela. Et on le voit encore aujourd'hui avec Palmyre et d'autres exemples. La culture, l'intelligence, c'est en réalité la confrontation libre des idées contraires, c'est le socle de la démocratie, c'est le socle de l'intelligence, du respect de la personne humaine, de sa capacité à se hisser. Parce que la liberté, c'est une occasion de grandir et de se confronter. Par ailleurs, J'avais dirigé un dictionnaire du libéralisme chez Larousse avec de nombreux auteurs, 65
dont
auteurs,
Lucien Jaume, ici
dont
présent.
Lucien Jaume, parce que j'avais pris les meilleurs. Mais l'idée était pour moi, après avoir, sans renier bien sûr ce mot libéralisme, mais j'étais extrêmement sensible quand Plon est venu me chercher pour écrire ce dictionnaire amoureux de la liberté, parce que, pardon d'une démarche très personnelle, mais c'est tellement incarné ce genre de livre, parce que j'allais vers la liberté plus que vers le libéralisme, et finalement le socle fondamental, moi je me sens un vrai défenseur de la liberté, au-delà des étiquettes qui charrient énormément de choses, et donc le libéralisme ça charrie tellement de choses négatives, malheureusement, mais donc j'étais ravi d'aller vers la liberté, et je ne voulais pas en faire un cheval de Troie pour défendre le libéralisme, c'était pas du tout mon objectif, c'est pas un dictionnaire amoureux du libéralisme du tout d'ailleurs, mais aller vers, comme l'y invite cette ligne éditoriale, vers effectivement la culture, vers la littérature, vers tous ces élans de création qui, pris les uns après les autres, sont une invitation à révéler ce que vous pensez vous-même de la liberté. Je rebondis, Ben-Hur, ça peut surprendre, mais Ben-Hur, il est pris dans les fers, et en même temps, il choisit même la contrainte, mais il la choisit par amour. Et moi, la définition de l'amour que j'ai, pour le coup, elle est très subjective, mais que j'ai dans ce dictionnaire amoureux de la liberté, c'est qu'on peut aussi se lier à une personne par amour. Et qu'on peut souhaiter s'y lier à vie entière.
Vous voulez dire abandonner sa liberté, c'est ça?
Et donc, les gens pourraient considérer que c'est un abandon de liberté. Je pense que c'est la plus grande preuve de liberté que de pouvoir, dans son élan de vie humain, créer une relation magnifique d'amour avec quelqu'un quand on a la chance de pouvoir la connaître.
C'est peut-être ça la plus grande difficulté, au fond, à Mathieu Lannes. On y revient. Au début, je vous disais, est-ce que c'est parce qu'il y a deux conceptions qui s'opposent de la liberté, une de droite, une de gauche, ou bien autant de conceptions de la liberté qu'il y a d'individus sur Terre? C'est peut-être ça, finalement, le problème. Parce que, effectivement, vous disiez, on a besoin de la confrontation libre des opinions contraires. On voit aujourd'hui que c'est pas toujours facile d'organiser des débats, de mettre autour de la table des gens qui sont pas d'accord. Justement, l'affaire Kamel Daoud en ce moment, portant sur ses prises de position qui peuvent être tout à fait discutables selon certains. On voit à quel point il y a une crispation. Est-ce que ce n'est pas parce que on a du mal à s'entendre sur une même conception de la liberté au fond? Et c'est ça qui m'étonne aujourd'hui en 2016. Est-ce que ça a toujours été le cas? Alors là, je vous pose la question à tous les deux, au fond. Lucien Jaume, puisque vous êtes aussi un historien de cette conception philosophique de la liberté. Est-ce que ça a toujours été le cas ou est-ce que c'est nouveau, ça?
Non, mais la querelle des anciens et des modernes, c'était quand même sur la définition de la liberté. Donc il y a quand même... Et d'ailleurs, je m'en réjouis personnellement. Le débat n'est jamais négatif. Il est bon qu'il y ait en permanence des définitions de la liberté qui s'opposent. Mon vœu le plus cher, c'est simplement que la liberté l'emporte dans les valeurs fondamentales, parce que sans liberté, je pense qu'on ne peut pas atteindre le bonheur ni l'estime de soi. Attends, alors, ça c'est autre chose, mais sans mettre la liberté au cœur des valeurs de la société, je ne vois pas beaucoup l'intérêt. Regardez vous-même, si vous êtes dans une décision contrainte, comment pouvez-vous avoir de l'estime de vous-même d'avoir agi? Si on vous a contraint à agir dans un sens ou dans un autre, l'estime de soi, elle vient d'une alternative, d'un choix libre et responsable. Vous faites votre choix et à la fin vous avez une estime de vous-même parce que vous avez choisi, et vous pouvez être fier de ce que vous avez fait ou tirer les leçons si vous faites une erreur. Pardon, mais c'est vraiment, on en arrive à ce genre de racine. Par ailleurs, moi je suis un peu dans la définition à la Spinoza de la liberté. La liberté, c'est, ça se voit beaucoup dans la dimension culturelle, mais c'est finalement donner à chacun la possibilité d'être ce pour quoi il est fait. Et j'ai rien trouvé de mieux pour permettre à chacun d'être et devenir ce pour quoi il est fait.
Lucien Jaume.
Oui, je pense que l'intérêt du dictionnaire amoureux de la liberté, que j'ai lu en partie, c'est qu'il nous présente vraiment des portraits. Par exemple, Romain Gary. Le portrait de Romain Gary est magnifique. Et c'est un Merci. Choix splendide. Ce que veut dire Mathieu Lannes, à mon avis, je vais essayer de le dire d'une autre façon, il veut dire que quand il y a des personnalités de qui exhalent le respect de la liberté, alors se crée une communauté beaucoup plus égale, beaucoup plus riche. L'important, c'est d'être pénétré de cet amour de la liberté. Et c'est rare et c'est difficile. C'est rare et c'est difficile parce que les gens... Vous savez ce qu'on disait déjà en 68, d'où parles-tu, camarade? C'est-à-dire, à quelle faction appartiens-tu? Est-ce que tu es à droite? Est-ce que tu es à gauche? Ou est-ce tu es de la troisième tendance trotskiste, de la cinquième ou de la sixième internationale qui va arriver. Bon, quand vous parlez à quelqu'un et que vous essayez de le classer, de le ranger, de savoir s'il relève de cette étiquette, eh bien vous avez tous ces débats factices qui pullulent dans les médias. Débats purement factices où l'on n'apprend rien et où l'on sait d'avance ce qu'on va entendre ou ce qu'on va lire. Je compare ça avec le problème de l'Europe. Ça peut paraître étrange. Mais ce que j'ai toujours reproché, je regrette ne pas l'avoir écrit. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Qu'est-ce que l'esprit européen ?» Mais je regrette ensuite de ne pas avoir écrit que tous nos politiques, sauf un ou deux, n'expliquent jamais pourquoi, culturellement, historiquement, spirituellement, scientifiquement, intellectuellement, nous avons fait et nous faisons l'Europe. Toujours l'économie, rien que l'économie. Si bien que Matteo Renzi, dans la cour de l'Élysée, se permet d'accrocher les journalistes et de dire « Mais vous, les Français, vous allez arrêter de ramener l'Europe à l'économie ?» Et le pape, de son côté, n'est-ce pas, quand il est allé au Parlement européen, qu'est-ce qu'il a dit ? Mais il a dit « L'Europe, ce n'est pas seulement la question économique. » Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire qu'on ne donne pas la liberté à nos concitoyens, les politiques, les spécialistes, les professionnels de la politique, ne donne pas la liberté à nos concitoyens de se réapproprier cet immense capital que nous avons d'histoire, de culture, que nous avons
enfin, dans nos traditions. C'est quand même les institutions européennes aussi qui sont en partie la cause de cela, puisque la plupart des choses qui se passent là-bas, c'est quand même d'essayer d'établir la concurrence libre et non faussée. Et
bien sûr, tout à fait. Non, mais nous pouvons mettre, malheureusement, les diplomates de Bruxelles, les économistes de Bruxelles et le personnel politique français, sauf une ou deux personnalités. Jean-Pierre Chevènement pourrait nous faire un portrait, mais il n'est pas très très européen. Jean-Louis Bourlange est tout à fait capable de nous faire un portrait de la chose.
Ça, c'est sûr.
Mais ils se comptent même pas sur une main, ceux qui sont capables de le faire.
Et Umberto Eco vient de mourir.
Umberto Eco, bien entendu. J'ai entendu d'ailleurs en Italie là-dessus.
Mathieu Laine.
Umberto Eco qui figure évidemment dans le dictionnaire amoureux de la liberté. Beaucoup de choses à dire. C'est dans le prolongement de ce que vous venez de dire. C'est précisément pour cela que j'ai écrit une ode à la liberté. C'est vraiment une déclaration d'amour enflammée à la liberté. Et qui n'est pas exagérément conceptuelle, puisqu'elle est j'ai essayé en permanence de l'incarner dans des auteurs, dans des écrits, dans des périodes, dans des mouvements artistiques ou ce genre de choses, et de ne même pas me limiter à l'écrit, puisque on parle autant de design que d'architecture, que de danse et de la liberté dans le mouvement et ce genre de choses. Donc c'est un livre que j'ai voulu charnel pour qu'on retombe amoureux de la liberté à un moment où précisément, et ça c'était assez touchant, plus que touchant, c'était bouleversant, on a vu que la liberté est arrivée au sommet des préoccupations des Français, tout simplement quand la liberté est, à la fois de caricaturer, d'avoir de l'humour, de critiquer une religion, mais aussi d'aller dans une salle de concert ou à la terrasse d'un café, était assassiné. C'est un peu le hasard malheureux d'une programmation qui, parce que pour écrire un livre aussi conséquent, plusieurs années, mais ce livre est arrivé au lendemain d'un mouvement meurtrier terroriste qui a attaqué la liberté. Et alors qu'on a interdit aux Français la deuxième fois, pour des raisons de sécurité, de se rassembler dans la rue, on les a vus se rassembler dans la rue, dans une forme d'ordre spontané peut-être, mais apporter la liberté au fronton, puisque c'est la liberté qui était menacée. J'aimerais, sur la dimension économique, pour reboucler avec ce que vous disiez, moi j'aime pas qu'on cloisonne, qu'on saucissonne. On a quasiment les gens qui seraient obsédés par l'économie qui parlerait que de ça, et puis ensuite les autres qui viendraient critiquer ce qu'ils appellent l'économisme, une espèce de primat de l'économie qui dominerait tout. Mais quelle erreur et quelle horreur. La liberté, elle s'incarne en tout. Elle s'incarne dans le mouvement libre du commerce comme dans le mouvement libre de la création artistique.
Quand même un petit problème idéologique, si vous voulez bien, puisque effectivement défendre la liberté, pour moi, bien sûr, non, mais
relever,
j'assume le problème qui se pose à moi quand je vous entends.
Oui.
La liberté, évidemment, tout le monde est bien d'accord avec vous que c'est très bien.
Pas si sûr.
Mais après, vous nous parlez de spontanéité, vous nous parlez que chacun doit être ce qu'il est, ce pourquoi il est fait, comme s'il aurait existé quelque chose pour lequel nous serions faits, et surtout, pourquoi pas au-delà, pourquoi pas transformer la société, transformer l'homme pour peut-être le dépasser aussi, sur pas seulement sur un plan économique, évidemment, mais aussi sur un plan éthique, sur un plan du comportement, sur un plan de la construction d'une société peut-être meilleure. Est-ce que cette dimension ne semble pas vraiment apparaître, et même être empêchée par cette pensée du spontanéisme ?
Mathilène.
Au contraire, lisez l'entrée concurrence, qui est un mot qui a l'air de vous faire pas peur, mais en tout cas qui ne vous plaît pas totalement, je ne sais pas.
Disons que ça peut pas être, c'est pas forcément l'absolu, on va dire.
Voilà, j'ai bien compris. Ouais. Moi non plus. Hein. Mais en tout cas, il me semble que, de même que la confrontation des idées contraires est vertueuse pour faire émerger, parce que j'y crois, une forme de vérité. Il y a quand même des gens qui considèrent qu'il n'y a pas de vérité. Hein. Moi, je crois qu'il y a le bien, le mal, il y a des entrées sur la religion, enfin, je veux dire... Le progrès est sans doute d'aller vers cela. Donc, enfin, je crois à cette notion-là. Mais de même qu'il y a une confrontation des idées, il y a aussi une confrontation des comportements éthiques, moraux. Et elle vient, à mon sens, plus par la concurrence des différents acteurs que par l'imposition par le haut de quelques personnes qui penseraient mieux que nous ce qui est bon pour nous. Pourquoi ? Parce que vous avez malheureusement toujours, quand vous êtes à la tête d'un État qui, quand on essaie de défendre, non pas ce que vous pensez vous, mais en tout cas ce genre d'idée, est un peu idéalisé, je trouve. Autant on critique souvent la spontanéité, mais on idéalise beaucoup l'État, en fait, quand on considère que c'est l'État qui va contrecarrer la spontanéité. Mais l'État, il est porté par des gens qui ont eux-mêmes leurs propres intérêts, et si c'est une démocratie, notamment la réélection. Et donc, j'aime bien l'idée que vous évoquiez au tout début de cet échange, d'une liberté qui doit être défendue, non pas par l'État, mais contre l'État. C'est-à-dire que l'État, il est là pour préserver la liberté de chacun et il faut se prémunir de l'arbitraire. Et l'arbitraire est dangereux et précisément empêche l'harmonie ou l'équilibre des relations sociales.
Mathilène, juste parce qu'on arrive au terme de cet entretien et pour faire le lien non seulement avec cette idée que tout est dans tout, c'est-à-dire qu'on peut avoir de la culture, de l'art et des idées en même temps, mais aussi pour rendre hommage à ce mélange qu'il y a dans votre dictionnaire et revenir à cette première partie de la Grande Table aujourd'hui, il y a une entrée dense et une entrée Camus. Est-ce que, très rapidement, vous pouvez nous dire un mot de ces deux entrées-là ?
Oui, bien sûr. J'ai le grand mouvement de création de Nourrieff. Il a même son entrée à lui, au-delà de la danse. La danse, c'est a priori un univers de contraintes, en tout. Puisque vous avez... Oui, il faut que j'aille très vite. Puisque vous avez la contrainte de la partition, de la chorégraphie, etc. Et en réalité, je trouve que ça incarne parfaitement le mouvement, et donc le mouvement, c'est la liberté. Et Camus, je ferai le lien avec Kamel Daoud, ça fait partie de ses grands résistants. Il a aimé, y compris dans l'absurde, l'élan de liberté que l'absurde permettait. Et quand vous lisez Meursault contre enquête, et qu'après, forcément, vous relisez L'étranger, vous voyez le respect de la liberté de chacun, y compris contre le totalisme religieux dans le dernier chapitre. Pour L'étranger, c'était le prêtre. Pour Kamel Daoud, c'est l'islamisme radical.
La danse, Camus, et évidemment Aretha Franklin, Think.
Évidemment.
Merci Mathilène d'être venu au micro de la Grande Table. Le dictionnaire amoureux de la liberté est donc publié chez Plon. Merci beaucoup Lucien Jaume d'être venu également.
Merci à vous.
Aujourd'hui, la Grande Table, c'est Raphaël Bourgois, Clémence Marie, Jeanne Aléos, Henri Leblanc, Antoine Sims. À la réalisation, Philippe Baudouin. Et à la prise de son aujourd'hui, c'était Stéphane Poitevin.